Je suis Adrien Garcia, entrepreneur, designer et cofondateur de la marque de vêtements Réunis. Et vous écoutez The Bold Way. L'avenir appartient à ceux qui remettent en cause l'ordre établi. Mais comment réinventer les règles, créer des projets iconiques et des œuvres qui marqueront l'histoire? The Bold Way est le podcast qui rentre dans la tête de ceux qui excellent dans leur domaine. Mode, divertissement, food, design, art ou business. Leur point commun? Le travail, l'audace, l'innovation et une attention toute particulière à la créativité et à l'esthétique. Ma mission est de décortiquer leurs méthodes et leur état d'esprit à travers des interviews longues et sans filtre, pour vous donner les clés de leur succès et vous inspirer à créer votre propre chemin. The Bold Way est plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement qui encourage chacun à trouver sa propre voie, à tracer son propre chemin et à innover dans son domaine. The Bold Way est là où la créativité et l'innovation rencontrent le business. Bonne écoute.
J'ai passé des concours pour faire une école nationale de théâtre.
Ok.
Et j'ai été comédienne pendant 10 ans.
Pendant 10 ans ?
Ouais.
T'es vraiment comédienne ?
Ouais, de théâtre.
Au théâtre.
Et en même temps, je suis administratrice de Lacoste.
D'accord, donc tu restes connectée à l'entreprise.
Toujours, toujours ouais. Beaucoup. Et en même temps aussi, j'ai créé la fondation Lacoste, qui rend le sport accessible à des jeunes qui n'y ont pas accès dans le monde entier. Et donc j'avais ces trois activités en parallèle.
Trop bien. Carrière d'actrice, ça, il se passe quoi en 10 ans? C'est quoi les grands milestones de ta carrière d'actrice?
Bon, c'est une carrière d'actrice dans le théâtre public avec une compagnie à Marseille. Moi, j'habitais là-bas à ce moment-là. Donc, avec quelques projets par an, que j'ai beaucoup aimé, mais qui m'a emmené à un moment à une certaine frustration. Parce que je trouvais que je ne faisais pas vraiment ce que j'avais envie de faire, que ce milieu était très sclérosé et que les décideurs en fait perpétuaient des schémas qui me paraissaient pas positifs. Et je trouvais qu'à mon endroit, moi d'interprète, bon, j'avais ma propre compagnie qu'on gérait, on proposait des spectacles, j'arrivais pas à faire évoluer ça et les rapports professionnels en fait de pouvoir ne me convenaient pas. Je trouvais qu'il y avait trop d'emprise en fait d'une certaine partie de la profession sur tout le reste. Et je me suis dit que j'étais pas au bon endroit pour le faire évoluer. Et puis aussi j'ai eu des enfants. Quand mon fils avait 6 mois, j'habitais à Marseille. Je suis allée travailler au Mans pendant 3 mois avec un seul jour de congé par semaine. Donc, le Mans-Marseille pour 24 heures, c'est pas évident. Donc, pour un projet qui m'éclatait pas, c'est pas parce que tu fais du théâtre que tout est formidable et que tous les projets t'éclatent. Donc, je me suis dit, ça a pas beaucoup de sens, en fait, d'être séparée de mon fils pendant 3 mois comme ça, aussi petit. Donc, je trouvais que l'organisation n'était pas géniale. Et puis moi, j'avais toujours cette double vie avec Lacoste où je me suis dit, en fait, peut-être je peux un peu plus switcher et être plus sur la vie de l'entreprise. Et en fait, du coup, très vite est arrivée la cession de l'entreprise et je me suis plongée dans le projet entrepreneurial de Fusalp.
D'accord.
Et en fait, le côté théâtre est passé du côté philanthropie, où je vais toujours beaucoup au théâtre. Je suis absolument passionnée par le théâtre, mais du coup, à ma place de philanthrope, je peux vraiment agir sur les gens que j'ai envie de soutenir et quel théâtre j'ai envie d'éclairer, à quel théâtre j'ai envie de donner les moyens. On donne beaucoup de bourses aussi dans les écoles nationales de théâtre pour faire en sorte que toute une population qui n'avait pas la parole puisse l'avoir.
Comment on te regarde comme l'artiste de la famille à l'époque ?
Oui, sûrement, oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça.
C'était une lutte pour toi, c'était compliqué?
Non, pas du tout. Pas du tout, parce que je l'ai toujours dit, j'ai toujours fait les discours, même mon père chez Lacoste me faisait faire des discours devant les conventions internationales quand j'avais 14 ans, quoi, en fait. On a toujours su dans les messes, c'est toujours moi qui ai lu les trucs. Enfin, j'ai toujours été celle qui faisait ça. Et mon grand-père, avant de mourir, m'a dit très clairement que pour lui, c'était normal parce qu'il est mort quand j'étais encore à Dauphine, et pour lui, c'était normal qu'après Dauphine, j'aille faire du théâtre, en fait. C'était évident.
Ouais.
Okay. C'était une évidence. Il n'y avait pas de sujet.
Ok. Et c'était un crève-cœur d'arrêter ta carrière, même si tu le fais différemment aujourd'hui?
Non, c'était un vrai choix.
Ouais.
En fait, ça me satisfaisait. J'étais pas du tout satisfaite et j'y allais avec beaucoup moins de joie. Et moi, il y a un truc qui est fondamental, la chance que j'ai, c'est de pouvoir faire que des choses qui m'apportent de la joie.
C'est ta façon de choisir les projets.
Ouais.
Ouais, faut kiffer. donc là, tu rejoins l'entreprise familiale. Tu dis que le projet de cession arrive assez rapidement, en fait, même quand, enfin, en parallèle de ta carrière d'actrice. Mm-hmm. Pourquoi céder une marque pareille?
C'est une histoire familiale, en fait. Tu vois, c'est quand on devient très nombreux, que les intérêts sont moins alignés.
C'est bien gérable.
C'est oui, il y avait plus de cohésion familiale autour du projet. Donc c'est pas moi qui ai choisi de vendre, mais
si c'était à choisir, tu aurais gardé.
Je le regrette pas. Je pense qu'on est plus heureux maintenant. C'était difficile. On aurait pu peut-être faire les choses autrement, mais on n'est pas arrivé à le faire autrement. Donc après, la vie qu'on a depuis est quand même hyper hyper chouette, hyper libre. On peut développer des projets, tu vois. Enfin, Fusalp, c'est extrêmement enthousiasmant. C'est un vrai projet d'entrepreneuriat avec toutes ses difficultés, tout. Mais on est dans quelque chose de très vivant. C'était chouette d'avoir un organisme plus petit ou du coup beaucoup plus agile aussi, avec moins de stratégie.
Ouais, et puis vous étiez vraiment les seuls à choisir.
Exactement.
Il ne
faut pas les convaincre, hein, avec 25 personnes autour d'une table en permanence pour tout. C'est aussi une fatigue de ça. Et puis on l'a remis dans les mains d'un groupe qui s'en occupe bien. Donc j'ai pas de, tu vois, c'est pas comme si Lacoste s'était effondré. Au contraire, ça grandit, ça se développe. Donc c'était légitime, je pense.
Et toi, t'étais la CEO de Lacoste quand même pendant quelques années.
Non, pas du tout.
Ah bon?
J'ai été présidente.
Présidente.
De Lacoste pendant quelques mois.
Pendant quelques mois, juste
non,
pour la
vraiment,
transition.
Ouais,
d'accord. Okay.
Vraiment très peu.
Ok. Et juste pour avoir un ordre d'idée, c'était quoi à l'époque en termes de chiffre d'affaires, en termes de business, Lacoste?
Je me souviens, ça me paraît tellement loin. On était au milliard et demi de chiffre d'affaires. Alors, pas nous, parce que c'était des histoires de partenariat.
Bien sûr.
Nous, notre entreprise, Lacoste, était détentrice de la marque. Gérer la marque, gérer sa défense, gérer la communication, et coordonner en fait tous ces groupes qui petit à petit se faisaient racheter par celui qui nous a rachetés. Mais voilà, notre travail à nous, c'était de coordonner, coordonner le style, parce que c'était pas la même entreprise qui faisait les vêtements, les lunettes, les chaussures, les ceintures, le parfum. Donc il fallait, et ça c'était le travail de ma belle-sœur Mathilde, qui est directrice artistique de Fusalp.
Maintenant,
c'est elle qui faisait toutes les tendances pour tout le monde pendant très longtemps, c'est elle qui faisait toutes les couleurs de tous les polos. Mon frère l'a rencontrée chez Lacoste. Elle était déjà à ce poste-là, c'est pas l'inverse.
D'accord.
C'est important. et notre travail, nous, c'était de coordonner le travail de tout le monde. Donc, nous, notre chiffre d'affaires, c'était pas 1,5 milliard, loin s'en faut. Mais c'était un business très rentable, évidemment, puisqu'on n'avait pas de risque, en fait. Nous, on avait la marque et on faisait inspecteur des travaux finis, ce qui était assez agaçant, parfois, pour les gens qui investissaient.
Bien sûr.
Enfin, ça, on pouvait bien le comprendre. Notre modèle même, en fait, était compliqué à poursuivre pour un vrai développement, puisque ceux qui devaient investir n'étaient pas propriétaires de la marque. Donc, on leur demandait d'investir, forcément, ils n'étaient pas toujours d'accord.